Les débuts du règne du jeune Louis XIII furent agités par de sourdes trahisons. Gaston d'Orléans, Marie de Médicis, Concini et la reine elle-même. Il y eut aussi des guerres incertaines, à La Rochelle, en Espagne, Corbie, etc. Et de graves ennuis de santé personnelle, avec un abcès au ventre. Mais à chaque fois, le roi obtint une heureuse issue, en se remettant avec confiance et piété à la Mère de Dieu. Finalement, en 1636, la Sainte Vierge inspire à Mère Anne-Marie de Jésus crucifié, religieuse stigmatisée, que le cardinal de Richelieu tenait en grande estime, l'idée que la France lui soit consacrée. L'année suivante, le roi Louis XIII fait cet acte, dans le secret de son cœur, et avec la reine Anne d'Autriche, il multiplie les prières et les pèlerinages pour obtenir un héritier attendu depuis 22 ans. La Mère de Dieu répond en apparaissant à frère Fiacre, un religieux du couvent de Notre-Dame des Victoires, tout juste fondé par le roi en reconnaissance de ses premiers succès. Elle demande 3 neuvaines à Notre-Dame de Cotignac en Provence, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame des Victoires. Le caractère miraculeux de cette apparition est rapidement reconnu et la reine est prévenue. Le frère Fiacre achève les 3 neuvaines le 5 décembre 1637, 9 mois, jour pour jour, avant la naissance de Louis XIV, qui recevra le nom de baptême de Louis Dieudonné. Avant cela, dès que la reine est certaine de sa grossesse, et sans attendre la naissance pour savoir si l'enfant serait un garçon ou une fille, Louis XIII publie le 10 février 1638 l'édit officiel qui consacre solennellement la France à Marie. Le roi veillera à ce que cet édit soit enregistré par le Parlement comme loi fondamentale du royaume et acte de l'autorité souveraine. Il instaure aussi une procession chaque année le 15 août pour la fête de l'Assomption, dans toutes les églises de tous les diocèses du royaume et requiert une représentation de son acte de consécration dans le cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tant de grâces si évidentes font que nous avons cru être obligés de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous et à ce Fils par sa Mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets. Nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties, agréables et ces choses bien raisonnables qu'ayant été médiatrices de ses bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. Ce vœu solennel et la naissance du dauphin si attendu déclenchèrent une véritable allégresse. Jamais aucun peuple, dans aucune occasion, n'a montré plus d'allégresse. C'est une grande et sûre preuve d'amour des sujets pour leur roi, quand ils accueillent avec de tels transports d'être gouvernés par sa postérité, a écrit l'ambassadeur protestant de Suède, Grotius, en septembre 1638. Depuis ce vœu, la France a ressenti les effets de cette puissante protection. Toutes nos affaires reprirent, avec tant de bonheur qu'il semble que ce soit un songe ou que nos ennemis aient perdu cette haute estime qu'ils se donnaient de vouloir faire la loi à toutes les nations et surtout d'humilier la nôtre, a écrit l'historien Lepré Balin en 1647. Cet acte de consécration, issu d'une conviction et d'une concertation sans ombre, éclairée par une solide doctrine, scella et perpétua en France, royaume de Marie, une confiance en la Vierge qui se transmit de génération en génération avec des fruits incalculables dans les diocèses, les paroisses, les familles et dans les cœurs. Et c'est encore à ce vœu solennel que fit référence le pape Pie XI quand il proclama officiellement Notre-Dame de l'Assomption patronne principale de la France en 1922.